Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Minier, bonjour à tous.
Alors sur France Culture, on rejoint les enjeux internationaux. Au sommaire aujourd'hui, l'archipel des Chagos dans l'océan Indien. Il s'en passe des choses au sud des Maldives.
Et oui, depuis le début de la semaine, c'est un peu l'effervescence, puisque la Cour internationale de justice a décidé que le Royaume-Uni devait mettre fin, je cite, « rapidement à son administration sur les îles Chagos ». C'est un des derniers territoires post-coloniaux et un avant-poste ultra-stratégique en plein océan Indien. Revendiqué par l'île Maurice et par ses habitants aussi déportés à l'époque, les Chagossiens. Bonjour André Oraison.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone en direct depuis La Réunion. Vous êtes professeur de droit international à l'Université de La Réunion, spécialiste des problèmes de décolonisation, également, je crois, conseiller juridique du comité Solidarité Chagos La Réunion. Alors, le problème, c'est, pour le dire rapidement, de 1967 à 73, près de 2000 habitants de l'archipel qui ont été déplacés, déportés vers l'île Maurice pour faire place nette à une base militaire louée en partie aux États-Unis. C'est l'Assemblée générale de l'ONU qui avait sollicité l'avis de la Cour internationale de justice. Qu'est-ce que vous retenez d'abord dans cette décision ? Recul de l'influence géopolitique du Royaume-Uni ou victoire du droit des peuples ?
Alors, dans cette affaire, vous avez très bien résumé la situation. Je crois qu'il faut dire que c'est une victoire, si vous voulez, d'abord du droit international public que l'on applique, que la Cour internationale de justice de La Haye a appliqué, parce qu'elle a fait prévaloir le principe, notamment, de l'intangibilité des frontières coloniales. L'idée, c'est que dans l'avis consultatif qui a été rendu par la Cour de La Haye, le 25 février 2019, vous l'avez dit au début de la semaine la Cour de La Haye a constaté que la décolonisation de l'archipel de Maurice n'avait pas été faite conformément au droit international, dans la mesure où la Grande-Bretagne avait détaché l'archipel des Chagos, qu'elle ne pouvait pas faire, avant d'accorder l'indépendance à l'île Maurice le 12 mars 1968. Ça, c'est un acquis, il faut le préciser. Cet avis a été rendu à la quasi-unanimité des juges. Oui. 13 voix contre une. La seule voix qui a été contre, c'est la voix de la juge américaine.
Oui. Et donc là, on aurait la reconnaissance d'un certain nombre de résolutions ONU, notamment la 1514 de 1960, qui interdit le démembrement d'un territoire colonial, je cite. Mais justement, comment ça se fait qu'on a eu une bataille judiciaire de très longue haleine, souvent portée par des exilés ou descendants d'exilés chagossiens, Olivier Bancou nommément, comment ça se fait qu'on en soit passé à une bataille diplomatique récemment et qu'elle ait fini par porter ses fruits, disons ?
Eh bien, je crois que l'affaire a mûri progressivement. Vous comprenez, à Maurice, il faut le savoir, les dirigeants mauriciens de l'époque, en 1965, ont été plus ou moins complices de la cession de l'archipel des Chagos à la Grande-Bretagne pour obtenir une indépendance plus rapide. Et donc, elle a fallu beaucoup de temps pour faire comprendre, si vous voulez, qu'à Maurice, même, cette équipe dirigeante mauricienne avait en quelque sorte été incitée à par la force, par la contrainte, à négocier cette cession de l'archipel de Chagos pour dire indépendance, ce qui est interdit puisque la Grande-Bretagne aurait dû tout simplement faire accéder l'indépendance Maurice sans lui amputer son archipel des Chagos. Alors, il y a eu bien sûr beaucoup de procès qui ont été portés par les Chagossiens devant les tribunaux juridiques britanniques, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ils n'ont pas donné jusqu'à présent de bons résultats parce que les revendications des Chagossiens ont été chaque fois rejetées parce que il est vrai que ces juridictions-là n'appliquaient pas le droit international public de la décolonisation. Oui. C'est parce qu'il y avait tous ces échecs-là que finalement, Maurice a dit qu'il fallait porter l'affaire devant la Cour internationale de justice de La Haye. Mais comme elle ne pouvait pas la porter au plan contentieux, c'est-à-dire obliger la Grande-Bretagne a accepté de porter l'affaire devant la Cour de La Haye, la Grande-Bretagne ayant conscience qu'elle perdrait son procès. La Maurice a donc été obligée d'utiliser un subterfuge, c'est-à-dire de demander à l'Assemblée générale de se substituer à elle pour demander à la Cour internationale de justice pour savoir si la décolonisation de Maurice avait été faite conformément au droit international par la Grande-Bretagne.
Oui, donc le gouvernement mauricien qui tarde à s'en mêler, qui reste un peu prudent de la même manière que l'ONU avait été relativement relativement prudente dans sa résolution là en 1965 quand elle invitait le Royaume-Uni à se conformer et elle priait le comité spécial. Là, c'est un peu plus fort comme résolution. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y avait quand même un consensus politique impossible à l'ONU si on est allé jusqu'au tribunal ?
Disons que, vous le savez, à l'Assemblée générale des Nations unies, il y a depuis très longtemps maintenant, depuis plusieurs décennies, une majorité de pays issus de la décolonisation, des pays d'Amérique latine, des Caraïbes, d'Afrique et d'Asie, et ce sont eux surtout qui se battent pour la décolonisation. Ils sont majoritaires. Et donc, la résolution qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 22 juin 2017 a été adoptée à une très large majorité.
Oui, 94 États en soutien, 15 seulement pour le Royaume-Uni et 65 abstentions.
Voilà, donc c'est pour montrer que l'Assemblée générale, elle se bat depuis plusieurs décennies, depuis le vote de la résolution 1514 dont vous avez parlé tout à l'heure, pour que le monde entier soit décolonisé. Et c'est dans cet état d'esprit qu'elle a demandé un avis consultatif à la Cour.
Oui.
Je précise quand même que la Cour de La Haye a rendu un avis consultatif, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas un arrêt qui aurait force obligatoire.
Et alors,
il ne lit pas la Grande-Bretagne.
Justement, quelles conséquences il pourrait avoir ? Il y avait un chercheur qui parlait d'un avis, un chercheur à La Haye, d'un avis pivot en ce qui concernait, je cite, la portée du droit à l'autodétermination et à la décolonisation. Vous pensez que ça peut créer un précédent, sachant que dans l'océan Indien, il y a une autre affaire, c'est celle de Mayotte et des Comores.
Oui, alors avant de répondre à cette question qui est tout à fait pertinente, je précise bien que, bien qu'étant un avis consultatif, la solution qui est donnée par la Cour de La Haye le 25 février 2019 aura quand même d'abord une grande valeur scientifique, parce qu'elle a été rendue sur la base du droit international positif, du droit national de la décolonisation, en application de l'article 38 du statut de la CIJ. Il a été rendu, en effet, par des juristes qui ont des compétences notoires en droit international.
Donc vous voulez dire une arme juridique réutilisable, en quelque sorte ?
Oui, et plus encore, cet avis consultatif a également une haute autorité morale, parce qu'il a été adopté à la quasi-unanimité des juges de La Haye, ce qui montre bien que, dans cette affaire, il est clair, aujourd'hui, pour les Nations Unies, pour tous les pays, que la Grande-Bretagne n'a pas décolonisé de manière correcte son ancienne colonie de l'île Maurice.
Même si elle ne doit pas, comme vous l'avez dit, s'y conformer, alors qu'est-ce que...
Voilà la question, c'est que si l'Assemblée Générale a demandé un avis consultatif à la Cour, c'est pour pouvoir ensuite agir librement. Maintenant que l'Assemblée Générale des Nations Unies est dotée de cet avis, qui fait 44 pages, qui est clair, qui montre bien les vices de forme de la décolonisation mauricienne par la Grande-Bretagne, elle va maintenant voter des résolutions pour demander à la Grande-Bretagne de tirer les conséquences de cet avis. Elle ne va pas rester inactive, voyez. Cela va avoir des répercussions au niveau même des Nations Unies.
Bon, et alors pour les conséquences à plus ou moins long terme, d'abord, conséquences concrètes pour les Chagossiens, ils sont quelques milliers encore, beaucoup veulent retourner sur cet archipel, notamment sur l'île de Diego Garcia, où se trouve la base qui est louée aux États-Unis. Est-ce qu'ils ont une chance de pouvoir y retourner à court terme ?
Alors, bien entendu, les Chagossiens veulent, pour une partie d'entre eux, revenir au Chagos. Le gouvernement britannique, d'ailleurs, n'avait pas exclu cette possibilité jusqu'à la date du renouvellement du bail, hein, le 30 décembre 2016. Et il était prévu même de refaire venir les Chagossiens sur l'île principale des Chagos, qui est l'île de Diego Garcia. En fait, sur la partie orientale de Diego Garcia, qui n'est pas militarisée, la base militaire se trouve sur la partie occidentale de Diego Garcia. Et l'autre partie, la partie orientale, est en friche. C'est là que les Chagossiens pourraient être installés. Alors, c'est justement sur ce plan-là, la base militaire n'est pas en fait remise en cause. Je suis persuadé que les Américains voudront rester au cœur de l'océan Indien, qui occupe une position évidemment stratégique.
Oui, quand bien même Maurice récupérerait Diego Garcia.
Oui, je pense que l'île Maurice, d'ailleurs, a souvent déjà dit qu'il serait prêt à ne pas contester la base. S'il revenait souverain sur les Chagos, il demanderait plutôt un bail, moyennant des compensations financières, voyez, annuelles, ce qui serait tout à fait normal. Donc il y a deux problèmes au fond distincts. Le bail, à mon avis, pourrait être maintenu, et le retour des Chagossiens, lui, pourrait être décidé par les Britanniques, s'ils voulaient vraiment faire un geste qui, à mon avis, serait tout à fait normal, parce que, vous le savez, la déportation de tout un peuple, de tout un peuple chagossien, entre 67 et 73, c'est un crime contre l'humanité.
Oui, et à l'époque, ça avait été effectivement, ça s'était passé de cette manière en quelques années. Toute dernière chose, il nous reste vraiment quelques secondes, mais qu'est-ce que ça impliquerait pour la France et Mayotte, sachant qu'il y a une résolution ONU suite de 1976 qui demande au gouvernement français de se retirer immédiatement de l'île de Mayotte?
Voilà une très bonne question auquel je réponds, c'est que, bien entendu, déjà, aux Comores et à Madagascar, on s'interroge, on se dit, mais si Maurice a pu obtenir une condamnation de la Grande-Bretagne dans son processus de décolonisation d'île Maurice, pourquoi nous, Comoriens et Malgaches, n'en ferions pas autant? Donc les Comoriens et les Malgaches pourraient être tentés de demander à l'Assemblée Générale, de demander un avis consultatif pour savoir si la décolonisation des Comores et des Madagascar par la France a bien été conforme au droit international. Vous voyez, ça pourrait faire boule de neige.
Eh bien écoutez, affaire à suivre, en tout cas, c'est sûr, ce sera dans les prochains jours, les prochains mois, et passionnant dans l'océan Indien. Merci beaucoup André Oraison pour vos explications aujourd'hui. On renverra aussi à vos articles nombreux sur le sujet, et puis bonne journée à La Réunion alors.